La quotidienne, le débrief de la tech.
Tech & Co pour débriefer l'actu avec ce soir sur le plateau du Beau Monde. Lucas Perraudin est là. Salut Lucas.
Bonsoir.
Lucas Perraudin, que vous connaissez bien sûr, fondateur de Moula Digital et ancien directeur du Meta Reality Labs. Et oui, puisque Lucas, pendant quelques années, a travaillé chez Meta. Il est avec nous ce
soir.
Il a un beau t-shirt. Qu'il est allé déterrer de ses vieux tiroirs.
Cette marque n'existe plus, hein,
Oculus. Voilà, Oculus Quest 2.
Ça, c'est suite au débat l'autre jour avec Taïk Chris.
Exactement.
Ouais, très très beau. Je suis un peu jaloux quand même. Hein.
Et il est pas mal. Pour l'histoire, hein. Le 2 a été rajouté à la dernière minute. C'est celui du lancement du Quest. Mais quand on a lancé, on n'a pas de t-shirt. Donc on a fait rajouter des deux sur le t-shirt.
C'est bien fait, hein, ça ne se voit pas. Ouais. Bravo. Chemise décontracte.
C'est Uniqlo. Voilà. S'il y en a qui veulent acheter la même. Il faut citer trois marques.
Là, toutes ces marques qu'on balance, c'est pas beau quand même. Voilà. C'est Clément David. Salut Clément.
Salut.
Président de Paddock, le roi du cloud et du fashion, on peut le dire aussi.
Bah, j'ai même pas de monde réalisé sur le chemin.
Et voilà. Et bien évidemment, le plus élégant d'entre nous, on est d'accord.
C'est mais Patel, avant il cravate. Avait une barbe de 3 jours et ouais. C'est reparti.
C'est quand j'oublie de me raser le matin.
C'est ça, hein.
C'est bien. Hein. Ouais. Moi, j'aimais bien. Et
puis toujours la petite cravate.
L'élégance à la française.
Ouais. Qui, voilà. L'élégant, c'est ça. C'est l'élégant. À la française.
C'est comme dans l'agence touriste, il y a l'élégant.
Ouais, c'est ça, c'est lui.
On va jamais démarrer l'émission.
Non, on va terminer sur nos considérations vestimentaires, tous. Ça va être sympa. Non, plus sérieusement, merci d'être là. On est un peu détendu parce que peut-être que pour certains c'était le pont, donc voilà. Hein. Oui. Mais on tenait à être là, on se demet pour commenter l'actualité avant ce week-end qui s'annonce. On va parler de beaucoup d'Apple ce soir avec les dessous des cartes entre Apple et Google, c'est intéressant. Concernant le moteur de recherche et le moteur de recherche intégré par défaut dans le navigateur Apple. Vous savez que ça coûte une fortune, une blinde à Google, mais on en parlera tout à l'heure. J'imagine que s'ils mettent autant d'argent, c'est que ça leur rapporte aussi beaucoup, hein, bien évidemment. On parlera aussi de TikTok qui cherche à éviter l'App Store d'Apple. Vous dites, mais pourquoi ? Eh bien, parce que on peut payer des influenceurs via TikTok. Et si il y a un échange d'argent via TikTok, bah Apple aimerait bien pour prendre les 30%. Et on va en parler d'ailleurs justement tout de suite de ça. Parce que derrière ces 30%, il y a, vous savez, cette réglementation du DMA qui commence à s'installer en Europe et qui veut casser un peu l'hégémonie de l'App Store, bien évidemment. Avec de nouvelles règles qui sont mises en place et vous le savez, Apple ne va pas très très loin dans le DMA parce que il a pas envie évidemment que ça casse son business en termes de marché hein, sur l'App Store. Et là, il a jeté quelques concessions comme ça. Quand même, on va en parler. C'est tombé il y a quelques heures et c'est nos collègues de chez Numérama et Nicolas Lelouch qui nous ont donné cette information en avant-première. Très intéressant parce que. Je sais pas qui veut expliquer cette histoire-là parce qu'elle est très complexe. Aujourd'hui, vous le savez, dans le DMA, à partir du moment où vous êtes en Europe et que vous avez un iPhone, l'App Store, en fait, les règles de l'App Store ont changé. Et donc, vous pouvez très bien, via des App Store alternatifs, télécharger des applications. Alors, il n'y en a pas beaucoup encore parce que c'est bien arrivé, mais à terme, on peut imaginer que Meta sorte un store alternatif, hein, toi qui connais bien
Amazon,
même des marques Samsung. Inconnues qui pourraient lancer Epic, bien évidemment, qui, on le sait, aimerait bien remettre au goût du jour Fortnite sur l'iPhone, qui a été interdit pendant plusieurs années. Donc, tout ça est en train de se mettre en place, mais Apple veille au grain parce qu'ils n'ont pas envie aussi qu'il y ait une hémorragie en fait d'utilisateurs qui quittent l'App Store pour aller sur ces stores alternatifs. Et ils ont mis quelques garde-fous, on va dire, et notamment cette petite taxe de 50 centimes d'euros à partir du moment où vous dépassez le million de téléchargements. Ok, évidemment, tous les grands des téléchargements et des applications ont crié au scandale, et notamment au premier Spotify qui s'est dit, mais attendez, c'est pas possible.
Ce sont eux les principaux visés. Hein,
les principaux visés. Et donc, Thierry Breton, via donc l'Union Européenne, a demandé à Apple de revoir un peu sa copie pour adoucir un peu les réglementations du DMA. Ils l'ont fait. Et effectivement, on va dire que pour les petits développeurs, il n'y a plus cette taxe de 50 centimes pour à partir du moment où vous dépassez le million d'exemplaires. Tout ça, évidemment, est très compliqué. Hein. Si vous arrivez à me suivre sans prendre un Doliprane, bon courage. Mais l'idée, c'est de dire que voilà, Apple essaie de lâcher un peu de lest pour que, on va dire, des stores alternatifs puissent voir le jour. Sauf que, quand on est toujours un géant en fait de l'application, eh bien on sera toujours obligé de payer ces 50 centimes d'euros. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ces modifications qui ont été faites, Lucas. J'ai bien révisé l'histoire ou pas?
Oui. Alors ce que tu as dit, c'est que
je vais prendre un verre d'eau parce que j'ai trop parlé.
Ce qui a changé, c'est pas les règles de l'App Store, c'est le fait que la Commission européenne a dit on peut pas vendre à la fois l'outil et les applications dans un bundle de manière jointe. Ils ont déjoint tout ça en disant bon, on doit pouvoir acheter un iPhone sans utiliser l'App Store, donc l'existence d'App Store alternatif. Après, la première raison...
Et l'iPad maintenant aussi d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant.
Tout l'écosystème d'applicatifs, en gros, on disjoint le hardware et le software. Ce qui, pour un acteur comme Apple qui vit sur l'écosystème...
commence à être un peu stressant.
Menace existentielle. Et donc quand on envoie une menace existentielle à un acteur puissant comme Apple, ils ont une réponse violente, qui a été cette première réponse, on n'a pas de problème. Au-dessus d'un million de téléchargements, c'est 50 centimes, donc on sait que Spotify, tout le monde, Meta, etc.
Les applications populaires que on a sur notre iPhone, évidemment, dépassent ce million de téléchargements.
Voilà, et donc ça devenait plus cher d'être en dehors de l'App Store qu'être dans l'App Store. En gros, l'économie, le calcul économique était comme ça. Je pense qu'ils ont fait un jeu bad cop, good cop, mauvais flic, bon flic. Donc ils ont commencé par attaquer très fort, lever de bouclier, en sachant déjà que le plan B, c'était de faire payer les riches. En gros, l'histoire, c'est on ne bloque pas l'innovation. Si des petits veulent innover et créer de nouvelles choses, on ne les taxe pas. Et puis, dès qu'ils atteignent un certain seuil de volume, alors ils vont devoir payer. Et donc, ce sera plus intéressant de revenir dans l'App Store d'Apple. En fait, c'est
dans la prison dorée.
Ouais, mais c'est de l'incubation, c'est bien.
Ouais.
Donc ils lâchent comme ça. Et en plus, l'avantage pour eux que je vois, c'est que tous ces projets, ils sont un peu moins bien finis que les projets Apple. Donc ils vont sortir des produits qui sont moins bien finis, tester des choses plus vite, avec moins de conséquences si ça marche pas, qui ne vont pas retentir sur la marque Apple. Donc pour eux, c'est presque tout bénéfice, quoi. L'incubation se fait en dehors de l'écosystème. Et puis, une fois que l'incubation marche, qu'un sur 100 survit, il commence à taxer ou à les rapatrier dans l'App Store. C'est une belle stratégie.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, vous êtes un petit développeur qui débute et vous sortez la Killer App. Vous savez, cette appli que tout le monde s'arrache et qui explose le million de téléchargements. Comme si vous êtes tout petit, bah vous paierez pas tout de suite en fait ces fees de 50 centimes d'euros. Ça sera étalé sur 3 ans, je crois. Enfin, il y a tout un système pour accompagner en fait les boîtes qui sont en croissance, pour pas qu'elles se retrouvent plombées par ces royalties.
Ils font d'ailleurs toute une strate. Il y a ceux qui sont gratuits, il y a ceux qui gagnent moins de 10 millions de dollars.
Ceux qui sont gratuits, ne payent rien, ce qui est normal. Mais d'ailleurs, c'est le cas sur l'App Store. À partir du moment où vous sortez une appli gratuite sur l'App Store, elle reste.
Il y a une catégorie des développeurs qui sont entre 10 et 50 millions d'euros, de dollars de chiffre d'affaires. Ceux qui sont à moins de 10. Alors, il y a ceux qui c'est gratuit, il y a ceux pour qui le chiffre d'affaires, les développeurs pour qui le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions de dollars, ceux où il est compris entre 10 et 50, et puis ceux au-delà de 50, c'est là où ça taxe à fond, et c'est là où on retrouve les Netflix et
les 50,
et
c'est pas une killer app. Un million de downloads,
non, mais c'est comme ça.
Une killer app, c'est 100 millions de downloads.
Non, puis alors, ce qui est compliqué dans tout ça, c'est qu'il y a le chiffre d'affaires généré par l'app, et puis il y a le chiffre d'affaires qui est généré par les achats in-app, quoi. C'est là où certains sont pas contents, parce qu'ils voudraient que, enfin, on le répète à chaque fois, ils voudraient que lorsqu'on fait on est dans une app téléchargée sur l'App Store, et lorsqu'on veut faire cet achat, l'éditeur, il voudrait qu'on sorte de là, puisqu'on rappelle, c'est 30% sinon qui revend Apple. Mais Apple, c'est quand même une manne financière, il y a des investisseurs derrière, enfin, qui regardent ce chiffre. Enfin, voilà, Apple n'a pas trop envie de sortir de ce système. Surtout qu'aujourd'hui, avec le DMA, ça se passe en Europe, mais pas ailleurs. Donc, il y avait des situations un peu ubuesques, quoi.
Ouais, et puis c'est cette histoire de tout ce qu'ils vont lâcher comme terrain en Europe. À un moment, ça peut donner des idées aux États-Unis, notamment comme marché, mais à la terre entière qui dit attends. Alors, c'est vrai que l'Europe.
Qu'est-ce qu'ils font en Europe là-bas, là ?
C'est quoi leur histoire ?
Le vieux continent.
RGPD, on va leur laisser. Bon, ça non. En revanche, tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est vraiment une histoire, mais ce que disait Lucas de storytelling. Qu'est-ce que tu peux raconter sur la démarche que tu as ? Parce qu'en fait, le DMA, comme toutes les actualités récentes de l'Europe qui essaye de réguler, c'est de dire attention, c'est bien la tech, mais toutes ces tendances, elles viennent aussi avec des côtés négatifs, des entreprises qui sont prêtes à vous marcher dessus pour quelques dollars de plus, on va vous protéger. Bon, et on va favoriser la concurrence, la protection de vos données, etc. La démarche d'Apple qui est de dire c'est vrai et regardez comme on est gentil, en fait, et petits, on va les protéger, on va leur tendre la main, favoriser l'innovation, etc. Ça les place dans une position, c'est plus uniquement les grands méchants. En revanche, les mecs à qui ça plaît pas, c'est Epic Games et Spotify, qui en fait ont lancé tout le truc, saoulent tout le monde avec ça depuis 5 ans et disent ok, génial, maintenant ça a bougé pour tout le monde.
Et ils se retrouvent.
Sauf que pour nous.
Ouais. Nous, finalement. Ouais, donc cool. En fait, à quoi ça a servi tout ça?
Personne n'a envie de les défendre. Parce que c'est des grands méchants.
C'est le principe. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une histoire de positionnement et de storytelling.
Oui, non, puis la difficulté aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est totalement imbriqué. Quoi. Et on le verra tout à l'heure avec l'histoire du moteur de recherche Google sur Apple. C'est que c'est des revenus. Alors, ils sont concurrents, ils sont compétiteurs. Ensuite, ils sont partenaires parce qu'ils se partagent des revenus de publicité. Et puis, en même temps, l'autre doit reverser. C'est quand même. Quand on essaie de regarder. Tout à l'heure, je m'amusais à essayer de faire un dessin, de voir un petit peu comment les revenus reviennent à Apple, reviennent à tout ça, mais c'est hyper compliqué quoi.
Et puis les gens s'en foutent, c'est-à-dire que toi tu disais tout à l'heure François, ah ouais mais en plus prenez un Doliprane parce que c'est compliqué, non seulement c'est compliqué mais en plus les gens s'en tapent, donc ils vont pas faire l'effort de comprendre, c'est-à-dire que en vrai que toi tu télécharges sur Apple, enfin le store d'Apple, ou que tu télécharges sur autre chose, etc., pour l'instant les gens, il n'y a pas une personne que ça intéresse sur Terre.
Le grand public, sauf si via un store alternatif tu retrouves des applications que tu n'as pas aujourd'hui sur ton iPhone. Enfin, via l'App Store. Mmh. C'est ça le truc qui peut ça, peut-être faire la différence.
C'est une conséquence, mais moi je pense que c'est déjà symboliquement c'est très bien. GDPR, tu disais, ça n'a pas eu de conséquence. GDPR, c'est une conséquence.
Non, je dis que les Américains ne nous l'ont pas repris.
Alors, il y a un Américain qui l'a repris, c'est Apple. Donc, GDPR, ça a servi de renforcement à la politique de données privées d'Apple, qui a quasiment essayé de casser le business model de Facebook avec. Donc, je l'ai vécu de l'intérieur. Je veux dire qu'il y avait des war rooms deux fois par semaine. Ouais. Donc GDPR, ce mouvement symbolique des institutions européennes, il est hyper intéressant et il est beaucoup plus impactant globalement que tout ce qu'on croit. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, la France, c'est un petit marché. J'ai bossé beaucoup à l'international. C'est un marché de niveau 3-4. La France, on fait les États-Unis, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne, et après on se pose des questions aux autres pays. Mais là, pour le coup, l'Europe, c'est hyper symbolique, c'est hyper intéressant. Débundler le hardware et le software, et l'application, casser l'écosystème, symboliquement, c'est très fort. À mon avis, ça aura des conséquences dans d'autres régions. Les États-Unis sont en train de se poser la même question. Et on est dans un niveau de maturité de tout ça, c'est un business qui a 25 ans, 30 ans, et c'est le bon moment pour le faire. Et ça va favoriser l'innovation. Alors les conséquences, ce sera que oui, il y aura plus de liberté, probablement plus d'innovation, et à ce moment-là, des applications intéressantes vont naître.
Après, la question que je me pose aussi, c'est l'aspect, alors c'est vous qui êtes dans le business, dans le développement et tout ça, c'est l'aspect sécurité. Tu vois, Apple dit, et c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de scandales, de fuites de données via les apps qui passent par Apple. Non, par rapport au logiciel classique. Et là, je me dis, on va voir aussi ce que ça va donner que des magasins d'applications alternatifs, et voir est-ce qu'ils seront un peu moins surveillés, est-ce qu'il va y avoir des fuites de données. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a... de fuite majeure via les...
Non, mais en fait, c'est pas ce qui est le plus attaqué, premièrement. Mais le deuxième élément, c'est qu'Apple, là où ils ont raison, c'est qu'ils surveillent bien.
Bah oui.
Mais rien n'empêche Samsung, s'il lance un store, de surveiller correctement aussi. L'argument d'Apple, c'est de dire c'est plus sécurisé parce que ça reste dans l'écosystème. Et c'est là que tu as envie de leur dire bon, on a compris, il faut pas sortir de l'écosystème, c'est mal. Ce deuxième argument est un petit peu plus.
Ça dépend. Mais après, regarde ce qui se passe dans Microsoft. T'as vu tous les failles. Enfin, c'est tous les jours. En plus, Microsoft en ce moment, qui est en train de se faire sacrément attaquer.
Après, t'as des problématiques de réputation. Pour qu'un App Store décolle, il faut qu'il y ait de la réassurance, et la réassurance, elle vient avec la réputation. Donc si Meta fait un App Store, je ne suis pas très inquiet pour la sécurité. Si Amazon fait un App Store, je ne suis pas très inquiet. Maintenant, si c'est un open source App Store, là, évidemment, les gens seront plus aventureux, les utilisateurs seront plus aventureux que le profil standard.
Mais vous pensez qu'en magasin alternatif, il y aura des open source, où on va rester sur Meta, sur ce qu'on fasse?
Tu auras forcément des open source, parce que par nature, les gens veulent faire de l'open source. Tu as des mecs qui s'y fileront, il y en aura un ou deux qui va avoir un succès.
Ce seront sans doute pas les plus populaires, non?
Mais pour le grand public, ça sera à peu près l'équivalent des gens qui arrivaient à débloquer leur Android pour installer des applications qui n'étaient pas validées sur les stores. Ça restera confidentiel.
C'est ce que les codeurs ont envie de faire. La bonne nouvelle pour l'open source, c'est que si vous demandez à un codeur s'il veut faire du piratage ou s'il veut faire du logiciel mainstream, il veut faire du piratage. Donc il y aura beaucoup en tout cas de matière grise investie là-dedans, même sans avoir beaucoup de...
Mais ça ne sera pas grand public.
Ouais. Mais je pense qu'Apple garde la main quand même sur tout le contenu, même quand il est installé via des stores alternatifs. Hein, ils l'ont dit, ils veulent quand même pas qu'il y ait des hémorragies.
Il y a un certain niveau de qualité. Android, il faut savoir que le store de Google côté Android, c'est quand même la foire à la saucisse. Hein.
Ouais.
T'as tout et n'importe quoi. Il y a un paquet d'applications qui étaient sur Android, qui n'étaient pas suffisamment bon niveau, ni en termes de sécurité, ni de fonctionnalité, ni de bug, pour être sur l'Apple Store.
Mmh. Il faut un peu le ménage, en fait. Ce qui déconseille, c'est surtout de télécharger des applis via le navigateur par des APK. Vous pouvez vous retrouver
tout seul.
Vous cherchez vraiment le bâton pour vous faire battre.
Puis là, on parle juste un dernier mot. On parle du marché consommateur, mais le marché des entreprises aussi, avec des gens qui ont des App Store entreprises, enfin sur Android. Ils ont une partie d'applications, ils n'ont pas le droit de les télécharger parce que ça doit être spécifié par l'entreprise. Enfin, tout ça aussi. C'est un côté un peu complexe.
Alors, la conséquence de ce DMA, donne aussi des envies peut-être à des géants des réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure de killer app. S'il y a bien une killer app en ce moment sur le store, c'est TikTok qui cartonne et qui aimerait bien éviter l'App Store d'Apple aussi. Parce que, alors on ne comprend pas trop, parce que, bon, voilà, c'est une appli de réseaux sociaux totalement gratuite, en fait, TikTok. Sauf qu'ils aimeraient, malgré tout, monétiser les choses maintenant, c'est ça ?
Ils ont déjà commencé, les revenus de gifting des influenceurs ou des créateurs de contenu sur...
C'est quoi ? C'est les récompenses, en quelque sorte,
Récompenses achetées par l'utilisateur qui sont données...
Toi, tu es influenceur sur TikTok, j'apprécie ce que tu fais. Je vais pouvoir te donner des pourboires, quoi.
Voilà, tu vas acheter des coins et tu vas me les donner. Donc c'est de la monnaie TikTok, mais à la fin il y a de l'échange.
Mais en échange, tu me donnes du contenu supplémentaire ou c'est simplement pour te soutenir comme ça gratuitement ?
C'est pas d'abonnement. À ma connaissance, c'est pas d'abonnement. Alors ça bouge tellement, il y a tellement de variations que. Mais a priori, c'est pas des abonnements. Mais on est déjà en dizaines de millions, si ce n'est en centaines de millions. C'est très conséquent. C'est très conséquent. Ça allait très vite parce que TikTok, c'est une plateforme qui fonctionne très bien comme ça.
Donc à partir du moment où on passe par l'iPhone. Et qu'on achète des crédits.
Ouais. C'est ce qu'on appelle les in-app purchases dont parlait.
On passe sur une in-app purchase et là, Apple, même si c'est pour du pourboire,
30%.
Prend 30%. Et ça, TikTok aimerait bien que ça disparaisse.
C'est ce qu'on appelle un poisson pilote. C'est comme en politique quand ils envoient un politicien pas très connu dire un truc très provocateur pour voir comment l'opinion va réagir. C'est exactement le même principe, c'est du PR. Ils voient le DMA avancer, etc. Ils se disent le timing est bon, ok. On va envoyer les gens sur, non pas notre app, mais sur un site web pour qu'ils achètent des coins pour pouvoir les donner aux créateurs. Donc toutes ces transactions se feront en dehors d'Apple. Oui. Moi, TikTok, ByteDance, je garantis la sécurité, l'intégrité, etc. Et donc on va essayer de faire passer ça et on attend de voir si Apple réagit. Alors après, on a le bras de fer TikTok versus États-Unis. Il y a un nombre de dynamiques contradictoires dans cette conversation qui sont hyper intéressantes. Mais effectivement, ils profitent du moment. C'est très difficile pour Apple de dire bon, vous pouvez pas le faire parce qu'on est en plein DMA. Donc on va voir ce qui se passe.
Apple n'a pas réagi encore.
Je sais pas que je sache, non.
Bon. Intéressant.
Il y a un enjeu.
Ils vont pas laisser faire parce que
c'est sur le marché européen.
En même temps, ils vont faire plus de lobby avec le Congrès pour que TikTok soit banni des États-Unis en conséquence, je pense.
C'est papier, ça que c'est le jeu. Mais il y a un truc intéressant sur les influenceurs. Parce qu'en fait, les influenceurs, c'est un peu le nerf de la guerre de tous ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand Twitch a commencé à investir massivement pour récupérer les producteurs de contenu de YouTube pour les faire venir sur sa plateforme, etc., etc. En fait, c'est bien d'en avoir, et TikTok en a beaucoup, mais ça coûte un rein. C'est faire venir les mecs, les subventionner, leur garantir des niveaux de revenus suffisants, etc. Donc en fait, c'est aussi un moyen de faire rester sur les mecs sur la plateforme, un peu comme sur Twitch, mais en permettant à la plateforme de générer elle-même les revenus au lieu d'avoir à les financer. C'est un move qui permettra à TikTok de s'assurer de pouvoir maintenir son modèle et de garder un maximum d'influenceurs sur la plateforme.
On fait payer les influenceurs par les utilisateurs. Mais TikTok rémunère moins bien que YouTube, par exemple, beaucoup moins bien. Donc c'est une façon effectivement de
remonter un petit peu la rémunération. C'est un peu comme on prend Uber, on sait qu'ils sont plutôt mal payés en fait les chauffeurs Uber, mais on peut donner un pourboire à chaque fois. Où là en fait Uber ne prend rien. Donc c'est un peu ça.
Mais ça marche très bien. Alors j'ai vu la stat, mais je sais plus si c'est en public ou en privé. Donc je pas trop. De mémoire en dizaines ou en centaines de millions.
Ouais, c'est intéressant. Donc, mais ça va être intéressant de voir comment Apple réagit face à cette volonté de pas de côté de TikTok. TikTok qui en ce moment d'ailleurs en fait pas mal, hein. Enfin, je veux dire, là,
sur tous les fronts,
là ils sont sur tous les fronts, quoi.
Franchement, mais ça fait 3 ans qu'ils sont là toutes les semaines avec un nouveau truc complètement scandaleux.
Non, mais
vraiment, TikTok.
Là, bon, voilà, ils sont quand même sous la menace d'une interdiction totale aux US. C'est pas fait encore, mais bon, ça commence à sentir pas bon, hein.
Ouais. Mais alors, enfin, ils en ratent pas une, je sais pas s'ils en ratent pas une, parce que très sincèrement, la problématique, c'est est-ce qu'il y a de la manipulation de masse, est-ce qu'il y a une intervention gouvernementale ou non?
Oui.
Ça, c'est la principale question. Après le reste.
Fuite de données vers la Chine.
Non, il y a aussi l'application qu'ils ont sortie récemment pour faire payer.
Ouais,
si tu regardes l'application, t'es rémunéré, c'est quand même Satan, tu vois.
Après, ils ont encore du potentiel sur l'Afrique. Ils ont du potentiel sur l'Afrique, sur l'Amérique du Sud, sur l'Europe. Nous, on n'est pas des gros utilisateurs de TikTok. Il y a encore toute l'Asie, donc voilà. Et puis retirer les États-Unis, attention, hein, je pense qu'avant que ça...
Il y a ce break générationnel qui fait que les politiciens sont relatifs. Biden, il a une conférence de presse spéciale influenceurs et 75% des gens, c'est des TikTokers dedans. Donc pour lui, c'est une force de frappe pour l'élection, donc c'est très compliqué, quoi.
Et puis même pour les jeunes qui vont voter là en novembre, se dire c'est cette gars qui veut faire interdire TikTok. C'est quoi cette histoire? Et puis je pense qu'à un plus bas niveau, la guerre Chine, à un plus bas niveau, j'entends au-delà des grands politiques, la bataille Chine-États-Unis. Du moment que je peux aller me balader sur TikTok, voir toutes mes vidéos, je m'en fiche un peu de savoir que ça
Lucas, on passe à Google parce que c'est intéressant ce sujet. Il nous reste 4 minutes, j'aimerais bien qu'on l'évoque. 4 minutes avant l'info éco, on revient juste après. Parce que Google donne beaucoup d'argent à Apple. On ne le sait pas trop, tout ça.
20 milliards par an.
20 milliards par an, vous rendez compte ?
Ça représente 17... grâce au procès.
Ça représente 17%, je crois,
des profits.
Des profits d'Apple.
Des profits,
Incroyable. Ouais. Incroyable. Pourquoi Google, qui est quand même un concurrent, on va dire, direct d'Apple sur plein de sujets, donne 20 milliards à Apple chaque année?
Équilibre des forces, c'est des intérêts croisés. Google donne beaucoup d'argent à Apple pour qu'Apple ne développe pas son propre moteur de recherche et que Apple rende disponible par défaut sa base installée, parce que les gens qui ont des iPhones, c'est les plus riches du monde. C'est une base. Il y a moins d'iPhone que d'Android dans le monde, très largement moins d'iPhone, mais simplement le pouvoir d'achat de ces gens-là est plus élevé. Donc Google, qui vend de la pub, a intérêt à parler ces gens-là de manière native. De l'autre côté, Apple craint que si Google est sorti et qu'ils sortent leur propre moteur de recherche, Google commence à détourner les gens de Safari à travers toute leur famille d'apps. Parce que Google Maps, ça marche mieux que Plan. Enfin, toutes les applications Google marchent mieux que les applications Apple natives. Et donc, ce qu'ils craignent, c'est que même sur les iPhones, ils aient beaucoup d'incitations à utiliser Chrome au lieu de Safari. Donc, on est dans un espèce de échec et patte, on dit, c'est ça, quand on peut pas se battre. On est vraiment là, donc il y a 20 milliards qui vont dans un sens.
Donc on s'auto-paralyse, quoi, chacun, avec des...
Ouais, c'est dissuasion nucléaire, personne n'intéresse à cette guerre.
Exactement ce que je veux dire.
Et puis en fait, il faut savoir que cet accord sur le moteur de recherche, ça date de 2002. Parce qu'au départ, c'était sur Mac, puisque et comme Google était à ses débuts, 2002, on est un peu avant la fin des années 90. Donc ils avaient signé avec Mac, et puis à l'époque, Google n'avait pas cette importance. Le moteur de recherche, on n'était pas encore. Nous, on avait nos Lycost, nos Yahoo. Enfin voilà, on était
Lycost.
mais on était là-dedans. Il n'y avait pas encore de grands. AltaVista, développé par un Français qui habitait d'ailleurs pas loin d'ici. Il était ici le Moulineau, l'un des principaux développeurs d'AltaVista.
Une anecdote par sujet, quoi.
C'est comme ça.
Et tout ça pour dire que ça a été renégocié en mai 2021. Ils ont essayé de renégocier, et puis là Google a dit bon d'accord, on va partager un peu les revenus, la pub et tout ça pour calmer un peu le jeu, comme tu dis, voilà, chacun son truc. Bing a essayé de rentrer dans le jeu
Apple a fait racheter Bing à un moment. Ouais. Mais c'est la dissuasion nucléaire, les enjeux. Ils ont tellement grandi.
Mais j'imagine que si Google lâche 20 milliards à Apple, ça veut dire, ils en gagnent combien grâce à Apple?
La base installée de...
Ça doit être énorme.
C'est 70% du pouvoir d'achat.
17,5%.
Mais c'est des dizaines de milliards supplémentaires, en fait.
17,5% des profits.
C'est quoi? C'est 135 milliards le chiffre d'affaires. Donc voilà, 60% de ça, c'est... Ils font 70% de marge dessus. Donc c'est largement... Je me fais aucun souci pour la rentabilité de ça pour Google.
C'est bon. Oui, en fait, les gens ne réalisent pas que ces entreprises sont extrêmement interdépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que nous, tu vois, on voit les gros qui se battent, les uns, mais c'est un peu comme quand tu dis les Américains, ils peuvent interdire tout ce qu'ils veulent en Chine parce qu'ils ont protégé leur marché, mais ils n'ont pas les terres rares. Donc en fait, ils sont dépendants des Chinois. Et d'ailleurs, Apple produit en Chine. Donc en fait, c'est exactement pareil pour les grandes boîtes de la tech. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun monde où ils peuvent s'affronter, t'as une forme de guerre froide, ils peuvent s'affronter frontalement, parce qu'en fait, ils ont besoin les uns des autres pour énormément de sujets qui concernent leur écosystème respectif. Donc, il y a beaucoup de sujets comme ça où échange de bons procédés, c'est bien, ça te rapporte, ça me rapporte, on passe à autre chose. Il ne faut vraiment pas les voir uniquement comme des ennemis, c'est aussi des fournisseurs les uns des autres.
C'est un cartel. Le risque, c'est s'ils ont une guerre nucléaire, il y a l'émergence d'acteurs qui est possible, d'autres acteurs qui est possible.
Le risque ultime, ça pourrait être, enfin pour Alphabet et Google, c'est un démantèlement. Hein. On pourrait
ils sont dans cet espace entre, c'est en train d'arriver à Apple, là, puis on en parlait avec EDMA.
Alors après, je pense que les Américains ont envie de garder quand même de grands puissants, de grands GAFA puissants, mais le juridique américain, il peut aussi continuer dans sa voie et puis un beau jour arriver.
Après, il y a un autre problème, c'est la gouvernance des GAFA. C'est les gens dans les GAFA qui ont plus de pouvoir que les sénateurs américains. Je pense qu'il y a cette problématique.
Puis, moi, je pense que Microsoft, parce que Bing a été rejeté, Microsoft doit bien aussi...
De gouvernance des GAFA, on va en parler dans quelques instants avec Mark Zuckerberg, qui fait un peu ce qu'il veut, finalement, chez Meta. Cela dit, c'est lui le patron. Hein. Mais sa stratégie est parfois un peu décriée, parce qu'il investit énormément d'argent dans tout ce qui touche en l'IA et même le métavers, hein. Enfin, en tout cas, la réalité virtuelle, c'est plusieurs dizaines de milliards, et les investisseurs sont pas forcément d'accord. Tu nous raconteras ça tout à l'heure. On parlera aussi des résultats d'Amazon qui cartonnent, pour ce trimestre. On en parlera avec Étienne Braque. Et puis, le Rabbit aussi. Ce petit objet dont on avait beaucoup commenté l'arrivée pendant le CES de Las Vegas, bien visiblement c'est pas terrible. Hein. Ça n'a pas l'air de très très bien marcher. Et puis tiens, s'il nous reste quelques minutes, Lucas Perraudin a enfin testé le Vision Pro. Je ne sais pas si tu te souviens la dernière fois, il nous avait dit
c'est pour ça qu'il avait mis son t-shirt Oculus.
C'était nul, c'est nul, mais tu l'as testé. Il nous avait dit non, je n'avais pas testé.
Feedback inscrit sur.
Donc il a testé le Vision Pro. Ouais. Tu nous diras ce que tu en penses. Voilà, le suspense est là.
Je trouve ça génial.